BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver ce week-end encore. Aujourd'hui, on vous embarque dans une entreprise familiale. Nous serons avec Jean-Baptiste Bissonnet, directeur général des Boucheries Nivernaises. On verra avec lui comment on manage quand on travaille en famille. Notre sujet de la semaine, les seniors et le phénomène de démission qui s'étend à cette catégorie de salariés. Au beau milieu, vous le savez très bien, d'une année rythmée par les débats sur les retraites ou l'index senior, on analysera ça avec nos invités. Et puis dans le Labo RH, on parlera des indépendants. Ils sont en train de prendre le pouvoir dans pas mal de secteurs. C'est ce que nous verrons avec Éric Didier, directeur général de Comet, plateforme qui met en relation les freelances avec les entreprises. Ravi d'être avec vous, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Jean-Baptiste Bissonnet.
Bonjour Erwan.
Merci d'être notre invité dans Happy Boulot. Vous êtes directeur général des Boucheries Nivernaises, entreprise familiale dans la vente de viande et qui a été créée pendant le Second Empire. Vous êtes, je crois, la sixième génération.
Tout à fait, la sixième génération de boucher dans la famille. Chez les Bissonnet, on se transmet le couteau.
C'est vous qui avez le couteau entre les mains ?
Exactement.
Et vous êtes à la tête donc de cette entreprise ?
Et entre les dents.
Et entre les dents, bah, c'est ce que vous allez nous raconter. On a plus d'envie, on va peut-être commencer par ça, quand on est un membre d'une famille et à la tête d'une entreprise dans laquelle on a les mêmes membres en fait, que sa famille ?
Alors je sais pas si on a plus d'envie, en tout cas on a l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant avec la famille et surtout d'aller de l'avant avec toute une équipe. Ce qui est extraordinaire aux Boucheries Nivernaises, c'est une histoire donc qui date déjà depuis 6 générations, 3 générations sous la marque Boucheries Nivernaises, on pourrait appeler même maison Boucheries Nivernaises. On est vraiment dans un lieu de travail hors norme, en travaillant avec la famille, avec les collaborateurs, donc des artisans bouchers qui m'ont appris mon métier. Tous les matins, c'est des moments particuliers. Je peux même dire que les collaborateurs, puisque généralement on fait carrière aux Nivernaises, bah font partie de la famille. Donc quand on va au boulot le matin, quand je vais au boulot tous les matins, j'y vais vraiment avec le sourire. Et je suis super heureux de me rendre à chaque fois dans les différentes sociétés de la société des Boucheries Nivernaises.
C'est comment d'ailleurs d'être un salarié dans une entreprise familiale, c'est-à-dire de ne pas faire partie de la famille Bissonnet, mais de faire partie de cette entreprise. Vous leur avez demandé ?
Alors réellement non, mais quand je vois les collaborateurs qui peuvent nous entourer, ils font partie de la famille des Boucheries Nivernaises et ils font partie de la famille Bissonnet.
Vous êtes la sixième génération, on le disait, sixième génération de boucher, ça devient assez exceptionnel, une telle longévité ?
Tout à fait. On est dans un monde qui bouge, mais quand vous êtes passionné dès la naissance, la boucherie n'a pas de secret pour vous.
Comment est-ce que ça vous est venu ? C'était une évidence pour vous de prendre la relève ?
C'était tout à fait une évidence. Un plaisir de continuer cette belle aventure familiale que mes grands-parents donc ont créée. Sous le nom donc Boucherie Nivernaise le 2 décembre 1954, on fait partie un peu de l'histoire.
Oui.
On transmet ils nous ont transmis le flambeau et j'espère qu'on transmettra le flambeau.
Qu'est-ce qui fait votre succès ?
La qualité et la régularité. Et ce, on n'a jamais trahi. On a toujours tenu un discours, je dirais, de qualité. Et je pense que la qualité a aujourd'hui, quand on prend soin de ses éleveurs, de ses collaborateurs et des produits qu'on vend, c'est primordial, ça nous emmène loin.
Le travail en famille, c'est aussi une des clés de la réussite. On sait que dans les familles, parfois, ça se passe pas bien. Vous pouvez pas vous le permettre, en fait.
Chez nous, ça se passe très bien.
Oui, à l'inverse. Mais est-ce que vous avez le choix ?
Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie. C'est comme mon père m'a toujours dit un jour, Jean-Baptiste, tu choisis d'être boucher, c'est super. Sache que moi, je t'ai laissé choisir ton métier. Et après, donc pour revenir à la famille, on travaille vraiment dans la joie et la bonne humeur. Les rôles sont bien répartis. Il n'y a pas d'animosité. Peut-être que c'est un petit peu, je dirais, le monde, un monde fantastique, un monde de rêve. Mais ouais. Les Boucheries Nivernaises, oui, pour moi, pour nous,
ça
c'est
fonctionne.
Un rêve. Ouais. Ça fonctionne et ça se vit en famille. Et vous savez, on est un clan, le clan de la famille Bissonnet. On avance groupé, tous ensemble, et je pense que tous ensemble, on ira tous beaucoup plus loin.
Mmh. Comment on fait quand on a, alors, je sais pas, il y a peut-être des frères, sœurs.
Bien sûr.
Voilà. Quand il y a parfois des tensions, mais ça arrive dans toutes les familles, pour pas que ça se répercute dans l'entreprise.
Alors très sincèrement, je vais vous dire,
il y a pas
de tension.
Ah ouais, c'est marrant. On a du mal à vous croire, mais bon. Peut-être
non, mais
que...
vous pouvez me croire, ouais. Vraiment sincèrement.
C'est la famille parfaite. Quelle est la particularité d'être à la tête d'une entreprise familiale comme la vôtre?
Alors la particularité, je pourrais peut-être pas vous le dire. Pourquoi? Parce que moi, c'est quelque chose d'inné chez moi.
C'est pas dur de faire la part entre justement vie privée, vie professionnelle?
Non, parce que je vis.
Elle est où la frontière?
Je respire Nivernaise. La frontière, je pense qu'il y en a pas. Je vais pas dire que je vis dans mon entreprise non plus, parce que j'ai une très belle vie familiale à côté. Mais c'est vrai que on est très souvent tous les Bissonnais ensemble, regroupés.
Ouais.
On discute business, on discute de plein d'autres choses. Donc au final, nos vies professionnelles et familiales sont très liées.
Jean-Baptiste Bissonnet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se permet de faire dans une entreprise familiale qu'on ne pourrait pas faire dans une autre?
On prend des décisions et on fonce. Et moi, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que mon grand-père, quand il était encore de ce monde, ainsi que, je dirais, mon père et mon oncle, qui sont toujours présents au sein des boucheries Nivernaises, et mes cousins, quand un Bissonnet, il parle pour tout le monde.
Et ça, c'est
génial. Prendre des décisions, ça nous laisse une aisance fantastique.
Sur le management, comment ça fonctionne? Parce que, pareil, la question se pose, comment est-ce qu'on manage les membres de sa famille?
Comment est-ce qu'on manage les membres de sa famille? Ça, c'est une bonne question.
On
manage
tout simplement
les membres de sa famille. Chacun a un rôle bien déterminé dans la direction de la société. Le but étant forcément le développement, la croissance, tout en prenant soin de nos collaborateurs et sans rien lâcher au niveau de la qualité.
Bon, j'ai remarqué. Alors, on a les photos de toutes les directions chez vous. Et j'ai pas vu de femmes. C'est vrai que ce sujet-là de la parité, il est très important dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises familiales.
Tout à fait.
Dans une entreprise familiale, c'est parfois plus compliqué, hein, quand peut-être seuls des hommes décident de travailler dedans. Comment vous regardez ce sujet-là?
Alors, ce sujet-là est à regarder avec une grande attention, parce que c'est vrai que la parité de la femme dans la société est quelque chose de très important. Le rôle de la femme dans notre société familiale est un rôle extrêmement important. On pourrait dire derrière chaque grand homme se cache une grande femme, derrière chaque grande femme se cache forcément un grand homme. On est devenu ce que nous sommes devenus les boucheries Nivernaises. Au départ, à la base de la réussite des boucheries Nivernaises, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes ensemble. Ma grand-mère, le 2 décembre 1954, était avec mon grand-père lors de l'ouverture de leur boucherie à Suresnes. Donc vraiment, c'était un couple extrêmement extrêmement lié.
Mais dans l'organigramme, on va avoir plus de femmes à l'avenir?
Alors dans l'organigramme, oui, on va avoir plus de femmes à l'avenir. Pourquoi? Parce que je trouve que la femme a un sens que l'homme n'a pas forcément, et je trouve que les femmes qui dirigent chez nous dirigent très bien. Voilà.
Il y aura une 7e, une 8e génération?
Il y a une 7e génération en cours.
Déjà.
Mes cousins ont déjà des enfants. Moi, c'est...
Ça va perdurer.
C'est en cours, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'être venu dans Happy Boulot, Jean-Baptiste Bissonnet, directeur général des Boucheries Nivernaises.
Avec plaisir, merci Rouen.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Les seniors sont à l'honneur cette semaine dans notre émission. Je ne parle pas des invités qui nous rejoignent à l'instant. Bien sûr, ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont pimpants. Je parle du sujet dont nous allons aborder tous ensemble, celui de la place des plus de 50 ans dans ces entreprises et du phénomène de démission qui les touche parfois, avec Franck Morel. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, Franck Morel, avocat en droit du travail depuis plus de 20 ans, ancien conseiller d'Edouard Philippe. Nous sommes aussi avec Caroline Morisseau.
Bonjour.
Caroline, journaliste BFM Business, et Vincent Meyer, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie.
Bonjour.
Vincent Meyer, vous publiez une étude sur le phénomène de la grande démission et vous êtes cette fois-ci en particulier intéressé à ce qu'on nomme les seniors, en réalité les plus de 50 ou 55 ans, dont les comportements de démission ont évolué, c'est ça, ces 15 dernières années?
Oui, tout à fait. Alors, on remarque une augmentation du nombre des démissions des seniors. Alors, bon, comme le reste de la population, en fait. Il y a vraiment, depuis 2016, une forte augmentation des démissions. En gros, on est passé de 9 000 en 2016 à plus de 20 000. Donc, il y a quand même un doublement. Alors, première chose, évidemment, les seniors démissionnent beaucoup moins que les plus jeunes. Voilà, ça c'est pas forcément surprenant.
Question de choix.
Oui, alors si on va chercher des explications, effectivement, il y a deux explications. La première, c'est d'abord l'amélioration du marché du travail. Très clairement, il y a une corrélation entre les deux. Donc tout simplement, c'est plus facile de démissionner parce qu'on a plus de chances de retrouver un emploi. Mais on peut pas s'arrêter à ça. Et c'est ce qu'on montre aussi dans notre étude, c'est parce qu'il y a aussi là une insatisfaction au travail qui est beaucoup plus grande. Et vraiment un manque de soutien managérial et un manque de sens au travail. Et ça, on l'a vu aussi dans notre étude.
Franck Morel, Caroline Morisseau, ce sont des éléments importants. Là, ces explications qu'on nous donne, que l'EM aussi Normandie nous donne, selon lesquels, en fait, le management, c'est aussi responsable de la démission des plus de 50 ans dans les entreprises.
Ah oui, c'est des éléments qui me paraissent primordiaux, mais vous avez pointé un élément qui est central, c'est le lien avec la situation du marché du travail. Si la proportion des démissions s'accroît, quelle que soit la tranche d'âge, c'est aussi, vous l'avez dit, parce que on a plus de chances de trouver un job si on quitte son job actuel. Et donc, l'équilibre sur le marché du travail entre les recruteurs et les recrutés est un peu différent. On le voit bien d'ailleurs avec la montée comme jamais des tensions de recrutement. Hein, on a atteint un niveau de tension de recrutement qui a... Alors on se rapproche, on n'y est pas encore. On est à plus de 7%. Ouais. On peut considérer que le plein emploi c'est à peu près à 5%. Hein, grosso
modo.
Mais
il y a une inversion qui s'est faite effectivement sur les
Absolument.
Tensions dans certains
Oui,
secteurs.
Alors il y a certains métiers, certains secteurs d'activité, on pense tous à certains métiers, par exemple dans l'informatique, avec des compétences très pointues dans ce domaine, où les tensions sont extrêmement fortes et où les gens qui ont des compétences, qu'ils soient seniors ou qu'ils soient plus jeunes, qui ont des compétences rares, eh bien sont en position de force, évidemment, pour négocier vis-à-vis des recruteurs en dictant un petit peu leurs conditions. Et notamment, on le voit de plus en plus, par exemple, leur statut social. Oui. En disant, moi, je préfère être indépendant, je préfère être freelance dans un certain nombre de cas. Et donc, c'est un changement assez considérable. Alors après, il faut garder à l'esprit quand même un autre point, c'est que vous avez aussi une très grande dualité dans le marché du travail. Le taux d'emploi des seniors, il s'est largement amélioré depuis 20 ans, il a pris 20 points en 20 ans, mais dans le même temps, le chômage de longue durée des seniors s'est accru aussi. Et donc, on a aussi une grande dualité, c'est-à-dire que vu d'avion, ça s'améliore, mais quand on creuse un petit peu dans le détail, eh ben, on a un certain nombre de profils, hein, de personnes qui sont en risque de précarisation et d'exclusion, et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre le paquet sur l'emploi des seniors.
C'est un élément d'ailleurs qui a été souligné pendant le débat sur la réforme des retraites. Vincent Meyer, quand on regarde aussi d'autres études qui sont faites là-dessus, hein, qui vont dans le sens de ce que vous venez de nous raconter, 60% des 50 ans et plus dans les entreprises disent qu'ils démissionnent pour des raisons d'épuisement ou de manque de soutien au travail. Ça veut dire que la tendance, elle est très forte.
Oui, et alors, et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir que, bon, quelle est la raison principale pour laquelle on démissionne ? Souvent, on s'attend le salaire. Voilà, classiquement. Et là, on voit que de plus en plus, non, c'est par manque de soutien managérial, et loin devant, hein, et surtout pour les seniors, beaucoup plus que le salaire. Donc on voit que cette question du management et du sens du travail est vraiment plus importante. Et j'insiste un tout petit peu dessus, parce qu'on pourrait avoir une explication, on dit on libéralise le marché du travail, et c'est très bien, les gens ont plus d'opportunités. Pas tout à fait, non, c'est... Il y a la cause principale, c'est parce qu'on est insatisfait qu'on va quitter. Et c'est pas du tout la même interprétation, surtout pour une entreprise. Voilà. Parce que si c'est nos meilleurs collaborateurs qui partent, c'est pas du tout la même chose voilà.
Caroline Morisseau, il y a eu un échec ces derniers jours, celui de l'index senior dans le cadre de la réforme des retraites. Il ne sera pas dans la réforme. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existera jamais. Beaucoup le réclamaient.
Alors oui, il y a effectivement le Conseil constitutionnel a retoqué pas seulement l'index senior d'ailleurs, mais aussi le CDI senior, donc à peu près toutes les mesures qui concernaient les seniors. Mais en effet, ce qui est sûr, c'est que ces sujets vont revenir dans le débat. Emmanuel Macron a demandé aux partenaires sociaux de se saisir de ce sujet. On ne sait pas en revanche sous quelle forme ça va revenir. Ce ne sera pas forcément les mêmes mesures que celles qui avaient été négociées dans le cadre de la réforme des retraites, parce que les organisations patronales sont fermement opposées à l'index senior. Elles plaident plutôt pour des exonérations de charges sur l'emploi des seniors. Et là, pour le coup, ce sont les syndicats qui sont opposés. Donc, on ne sait pas quel sera le point d'atterrissage au bout de tout ça.
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la mesure index senior plus la mesure CDI senior étaient des dispositifs intéressants, mais qui restaient insuffisants par rapport au besoin de disposer d'un plan massif, vigoureux et qui agit sur l'ensemble des leviers en matière d'emploi des seniors. Je rebondis sur ce que vous disiez quand vous disiez que la question du salaire n'était loin s'en faut pas la seule question, mais aussi celle pour aller vite des conditions d'emploi, hein, des conditions d'emploi plus que conditions de travail, puisqu'effectivement on est sur quelque chose de très très large. Et donc ça me permet de mettre l'accent sur un point qui me paraît essentiel, c'est les outils de gestion des fins de carrière. Oui, je pense qu'on manque dans notre pays d'outils permettant de formaliser des deals des deals de fin de carrière, c'est-à-dire des vrais compromis, contrats, entre guillemets, entre l'employeur et le salarié, pour dire, ben voilà, pour gérer la fin de la carrière, on va aller soit sur tel job, soit sur tel dispositif à temps partiel, et en contrepartie, eh bien, on va avoir une période de garantie d'emploi. On n'y réfléchit pas assez.
Là, pour le coup, on a quelques améliorations dans la réforme des retraites qui sont restées, mais qui aussi ne vont pas assez loin. Le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, il y a eu des ouvertures sur ces sujets-là, mais qui demandent aussi à aller plus loin.
Vincent Meyer.
Et là, je pense, enfin, on est en retard sur ce sujet. Et ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est le rôle des grandes entreprises. Évidemment, qu'on les moyens et on voit que
c'est elles qui doivent être motrices.
Clairement.
Enfin, en fait, tant qu'elles n'ont pas complètement franchi le pas, on peut se dire que ça va pas fonctionner. C'est
non,
ça.
Non, c'est des sujets importants et pour faire bouger les choses, bon, il y a la loi, ok, mais c'est pas suffisant. Il faut faire changer les normes et il faut faire changer l'exemplarité. Et ça commence très clairement par les grandes entreprises.
Ça veut dire prendre les devants. Écoutez, parce que à propos de, on parlait de l'index senior, on parlait du CDI senior, la réintégration aussi des plus de 50 ans dans la stratégie des entreprises. Eh bien, certaines entreprises n'ont pas attendu qu'on en parle ces derniers mois. C'est le cas dans le Val-de-Marne où une structure accompagne les entreprises et les seniors dans leur recherche d'emploi. Elle a mis en place deux dispositifs pour favoriser leur insertion professionnelle. Écoutez le directeur de la structure, Daniel Pigeon-Angelini, interrogé par Jeanne Spicarolène.
On a répondu de deux façons majeures. Une première, en proposant donc dès 2019 le label Emploi 45+, donc qui est un label qui identifie et qui valorise les entreprises qui sont ouvertes au recrutement de personnes de plus de 45 ans. Et puis de l'autre côté, c'est bien d'avoir des entreprises, mais il faut avoir des demandeurs d'emploi qui sont prêts à retourner à l'emploi. Donc de l'autre côté, on a lancé un dispositif qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez la garantie jeune, qui est en fait une transposition de la garantie jeune pour les seniors, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement renforcé pendant 6 semaines à temps plein chez nous, pendant lesquelles on les remet, donc ça s'adresse aux seniors de plus de 45 ans et de plus d'un an d'ancienneté dans le chômage, on y est dans le Val-de-Marne. Pendant donc ces 6 semaines, on va à la fois améliorer leur capacité à candidater, mais aussi on va leur redonner confiance, on va leur faire découvrir des entreprises auxquelles ils n'auraient pas pensé, des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé, etc.
Franck Morel, Caroline Morisseau, Vincent Meyer, ce sont des initiatives comme ça qu'il faut développer peut-être localement d'abord.
Mais bien sûr, c'est des initiatives comme ça qu'il faut développer parce qu'elles sont en prise avec le terrain, elles peuvent faire du sur-mesure en mobilisant un certain nombre d'outils. Et puis après, vous avez des fondamentaux, on le voit bien, il y a l'accompagnement. Puisque la personne qui s'exprimait parlait de la faisait le parallèle avec la garantie jeune, l'accompagnement,
et donc c'est aux entreprises de prendre ça en charge.
Alors, c'est des associations, c'est des entreprises, c'est Pôle emploi, c'est effectivement toute une série d'acteurs qui peuvent mobiliser des outils pour effectivement prendre ça en charge. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui me paraît encore essentiel, c'est la formation. On n'est pas assez fort en termes d'efforts qui est effectué en direction de la formation professionnelle des plus de 50 ans et des plus de 55 ans. Donc il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle. Et ça peut être aussi un moyen de le faire.
Il faut développer ces outils.
L'accompagnement, oui, au Danemark, par exemple, qui est un pays qui est souvent cité en exemple, il y a une vingtaine d'agences, qui ne sont pas des agences Pôle emploi par définition, mais à peu près l'équivalent, qui sont spécialement dédiées aux seniors, et c'est un point sur lequel on n'est pas très fort en France.
Vous nous parlez du Danemark. Je pense à regarder ce qui se passe en Europe. Et là encore, on se rend compte qu'en France, on a un retard sur le taux d'emploi des 55-64 ans. On est en deçà de la moyenne européenne. Ça veut dire qu'encore une fois, quand on se compare à nos voisins, en tout cas sur ce plan-là, il y a peut-être des choses qui peuvent nous inspirer à l'étranger.
Oui, très clairement. Enfin, moi, j'ai eu une carrière avant dans la recherche de responsable ressources humaines. Clairement, la discrimination la plus forte que j'ai vue au travail, devant le genre ou d'autres considérations, c'était l'âge. Vraiment.
Comment on l'explique ?
On l'explique parce que il y a un problème de normes en France. Vraiment, les gens se disent les seniors seront pas adaptables, ils seront chers et donc vraiment.
Ils sont plus chers.
Et puis il y a un aspect culturel.
D'autres attentes.
On a été shooté au pré-retraite. Faut le rappeler quand même pendant des années et des années, et ça a pesé quand même sur la perception culturelle des seniors, parce que c'était facile dès qu'on avait des difficultés, allez hop, on se mettait d'accord, on faisait des mesures d'âge. Exact. Donc, et ça, on a mis du temps à s'en départir.
C'était une erreur.
Et c'était une énorme erreur, évidemment. On l'a payé très très cher et on continue de le payer.
Oui, on continue de le payer
dans les têtes, effectivement. Et c'est pas encore complètement débranché dans les têtes, effectivement.
Enfin, je veux dire, quand on regarde dans les grandes entreprises, on sort un an avant à la retraite que dans les petites entreprises. Enfin, ça devrait être l'inverse. Les grandes entreprises ont quand même plus de moyens. Ouais. On peut faire des belles carrières, etc. Non, c'est inversé. Enfin, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça.
Une minute pour conclure. Il faut faire quoi ? C'est quoi les solutions ? Il faut contraindre les entreprises, justement. Il faut que le législatif passe par là. Il faut sanctionner aussi, comme on l'a fait sur l'égalité professionnelle.
Non, les solutions, elles passent par une pluralité de leviers. Une pluralité de leviers, d'outils incitatifs. Il faut faire en sorte que l'ensemble des acteurs ait intérêt à embaucher et à garder les seniors.
C'est ce que disent tous les experts, il n'y a pas de baguette magique, ça passe par une panoplie de solutions, mais en tout cas, attention à la contrainte, parce que par le passé, on a eu des contre-exemples. Dans les années 80, il y avait une contribution qui s'appelait la contribution de Lalande, qui consistait à taxer les entreprises si elles se séparaient de leurs salariés de plus de 50 ans, et ça a eu un effet complètement contre-productif, puisqu'elles se sont séparées de tous leurs salariés des 49 ans.
Ouais. Peut-être pour conclure, et une solution qui peut nous inspirer à l'étranger ?
À l'étranger, alors... Il faut changer les normes, il faut changer la culture et inciter. Alors, en France, par exemple, on voit sur les jeunes, l'apprentissage, ça fonctionne très bien. Donc, des systèmes comme ça pour les seniors. Et on peut aussi inciter l'index senior
Et donc, subventionné, financé par l'État aussi. Parce que l'apprentissage, était largement
On peut, sur cumul emploi-retraite, on peut travailler en 4-5e, on peut accompagner pour transférer les savoirs.
Merci beaucoup, Vincent Meyer, enseignant-chercheur à l'EM Normandie, Franck Morel, avocat associé au cabinet Flichy-Granger et Caroline Morisseau, qu'on retrouve tous les jours sur notre antenne journaliste BFM Business pour ce débat passionnant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et focus dans les minutes qui nous restent dans notre labo RH sur les indépendants. Avec vous, Éric Didier, bonjour.
Bonjour Erwan.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes PDG de Comet, plateforme qui met en relation les freelances avec les entreprises. Et pour ça, vous utilisez la technologie. Ça commence par là.
Absolument.
Quelle technologie ?
Nous fabriquons des algorithmes qui vont chercher toutes les données publiques de toutes les personnes, toutes les traces que vous laissez sur le web. Mmh. Notre but étant d'identifier le meilleur expert informatique pour des missions longues en entreprise. Voyez-nous comme une sorte de technologie pour complémenter la chasse de tête.
En un temps record, vous donnez 48 heures,
48
c'est ça,
heures.
Pour trouver le bon profil.
Non seulement pour le trouver, mais pour qu'il commence en entreprise. Alors que souvent, il faut plutôt 3 ou 4 mois de préavis.
C'est ça. Donc, non, ça, c'est un vrai défi. Et en même temps, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que ça se joue sur... C'est comme quand on fait une recherche sur un moteur de recherche. Mm-hmm. On veut le résultat instantanément. Là, quand Absolument. On recherche... quelqu'un pour si on a besoin, un freelance, on le veut très très vite.
Ça vient historiquement du fait que les programmes informatiques pour ce qui gère votre banque par exemple, on les développait par cycle de 3 ans. Ouais. Donc 3 ans, si on met 3 mois à recruter quelqu'un, ça va. Aujourd'hui, les cycles ils sont de quelques mois. Et si un cycle fait quelques mois et que vous mettez 3 mois à trouver la personne pour le faire, vous avez planté vos délais.
On a plus de 3,5 millions de freelances en France. Mmh. C'est en progression. Ça veut dire qu'on c'est un modèle qui prend et pour lequel donc il faut apporter ce type de solution que vous développez.
C'était assez facile de recruter avant entre guillemets parce que il y avait soit des chasses de tête, soit des cabinets, soit des sociétés de conseil qui avaient déjà plein de gens disponibles et qui les mutualisaient. Aujourd'hui, l'indépendant, c'est un marché presque similaire à ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire un marché de consumers. Ils sont cachés un peu partout. Les trouver, les identifier, être capable de les faire travailler en grande entreprise qui ont des modèles quand même assez complexes au niveau travail. Ouais. Il faut globalement quelque chose qui corresponde à ce qu'il en est. Je pense que la circulation dans Paris a favorisé les Uber et autres. On fait la même chose côté informatique.
Et on se rend compte, on disait qu'il y en a de plus en plus des auto-entrepreneurs, des freelances, si bien que parfois les meilleurs talents ne sont plus dans les entreprises. Ils se sont mis à leur compte et ils vendent leurs services aux entreprises. Ce sont eux qui choisissent les clients en fait, en réalité.
Un peu les deux, parce que pour être heureux au travail, il faut que celui qui donne la mission et celui qui l'a fait s'entendent bien. Mmh. Nos mottos, c'est d'essayer de réenchanter le travail, mais il faut en effet qu'il se trouve. Et de plus en plus, les experts sont attachés à leur expertise, à leur savoir-faire, moins au logo de la société pour laquelle ils travaillent.
Et ils sont, en étant en freelance, aussi mieux payés. C'est ça aussi l'enjeu de. Enfin, c'est ce qui explique ce phénomène.
Ça arrive comme quatrième motivation, étonnamment. Ouais. La première motivation, à plus de 50%, c'est de prendre du plaisir dans la mission qu'ils font. C'est des passionnés.
Numéro un.
Après, il y a le fait d'avoir un meilleur équilibre travail et vie familiale.
Ça, c'est parfait.
Ça commence à être faisable dans les grands comptes, mais ça n'empêche que quand vous négociez votre contrat, vous allez dire désolé, le mercredi après-midi, il est pour moi, quelle que soit la raison.
C'est toujours délicat.
Et bien sûr, derrière, en quatrième, en fait, il y a le fait de gagner mieux, qui est plutôt dû à une balance entre charges sociales et autres. Mais c'est pas forcément la motivation primaire.
Et rapidement, pour conclure, on sait que ces talents-là, ils sont aussi en recherche de mobilité. C'est ce qu'ils retrouvent en étant freelance, pouvoir travailler à l'étranger.
Il y en a plus de 70% qui vont à l'étranger, quasiment 100% parlent une langue étrangère. Donc ça correspond à un nouvel art de travailler. On parlait de l'art de vivre, l'art de travailler a changé aussi.
Et ça veut dire que les entreprises, quand elles embauchent, quand elles recrutent des salariés, donc en interne, dans leurs effectifs, peut-être ne proposent pas assez de flexibilité sur la mobilité aussi.
Peut-être un peu moins de passion. Un peu moins de passion. Un freelance, c'est passionné, mais se forme aussi tout seul.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Éric Didier, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Vous êtes PDG de Comet. Merci pour toutes ces explications et ce focus sur les freelances dans Happy Boulot. Ravi d'avoir été avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Vous retrouvez Happy Boulot, bien sûr, en replay, en podcast. Et puis, cette émission, c'est la vôtre. Si un sujet vous intéresse, vous interpelle, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez une seule adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.